Allô? Je viens de me garer là, j'arrive. T'as vu Jean-Mike? Non? Bon, ok. Ah, salut, ça va? T'as vu Jean-Mike? Ah bon? Ok. Bonjour Jean-Mike, comment ça va aujourd'hui?
Je suis désolée pour le retard.
Alors on parle écologie aujourd'hui?
Non.
Les grandes voix de l'UNESCO. Épisode 3. Simone Veil.
Bonjour Jean-Mike.
Bonjour Gabriela. Savez-vous que derrière chaque micro, il y avait une femme?
C'est-à-dire, vous avez fait une introspection?
Le 8 janvier 1979, à la tribune de la salle plénière de l'UNESCO, se tient devant moi la grande Simone Veil, qui est alors sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, ministre de la Santé en France. Rappelez-vous, c'est grâce à son travail et à celui de l'avocate Gisèle Halimi qu'en 1975 sera adoptée en France la loi dépénalisant le recours à l'interruption volontaire de grossesse. L'IVG devient légale. Un grand combat pour le droit des femmes à disposer librement de leur corps est gagné.
Un droit essentiel pour les femmes, qui de nos jours est pourtant bien souvent remis en cause dans différents pays du monde.
Nous sommes donc en 1979 et cette année est déclarée par l'ONU Année internationale de l'enfant. 20 ans plus tôt, l'Organisation des Nations Unies adoptait la Déclaration des droits de l'enfant. À l'occasion de l'ouverture de la conférence de l'Union internationale des organisations familiales sur les responsabilités de la famille dans l'éducation de l'enfant, Simone Veil, tailleur impeccable, est donc devant moi. Face à elle, c'est une salle comble qui s'apprête à l'écouter. En effet, dans le monde occidental, la place de l'enfant au sein de la cellule familiale et au sein de la société a changé, car le monde occidental a changé.
Quelle est la place de l'enfant dans notre vie sociale? La maîtrise de la conception en fait de plus en plus l'enfant souhaité. L'effacement de la famille comme unité de production place au premier rang la dimension affective qui le réunit à ses parents. L'enfant prolonge le choix qui a réuni ses parents et vient consolider la réalité familiale. L'enfant se détache des hasards de la vie. Il apparaît sujet de droit, comme en témoignent les législations qui entendent le protéger, fût-ce contre ses parents, ou la revendication des enfants et des éducateurs de voir les adolescents accéder à une plus grande autonomie. Cet enfant n'est plus ainsi celui qui, selon l'étymologie latine, ne parle pas. Bien au contraire, il parle et il est écouté. On peut même affirmer que l'essentiel de la vie familiale est bien ce dialogue de plus en plus égalitaire et ouvert entre les enfants et leurs parents, entre les enfants et le monde. L'enfant est l'objet d'un investissement individuel, familial et social jamais égalé. L'élévation de la qualité de la vie à laquelle nos pays peuvent maintenant prétendre, compte tenu de leur haut niveau de développement économique et technologique, reste ainsi le garant fondamental d'un renouveau d'espérance collective et de bonheur familial. Le rôle que joue cette vision de l'avenir est d'autant plus fort que l'enfant est désormais de plus en plus le résultat d'un choix. Ni les hasards de la fécondité naturelle, ni les nécessités de l'économie familiale ne viennent plus exercer de pression vers une haute natalité. La programmation de la venue des enfants permise par la contraception est un fait irréversible. Dans le même temps, la valeur productive d'une nombreuse descendance s'efface, qu'il s'agisse de participation des enfants à l'entreprise artisanale ou agricole, ou qu'il s'agisse pour eux d'aider leurs parents dans leurs vieux jours. Le coût de l'enfant pour la famille s'accroît. Comme tel, il apparaît presque comme un objet de luxe qui doit être préservé des hasards de la vie. Il faut assurer son avenir et sa maladie, sa détresse ou sa mort apparaissent inadmissibles. Ce souci du bonheur de l'enfant roi concentre nos efforts sur deux aspects, son niveau de vie et son éducation. L'enfant s'affirme tout d'abord comme un consommateur à part entière. L'enrichissement de nos sociétés a accru considérablement son coût. L'enfant est soumis à la pression du système marchand et l'enfance représente désormais dans nos sociétés un marché commercial de première importance. L'enfant se situe donc comme concurrent de ses parents ou de ses frères et sœurs dans le budget familial. Les parents jeunes sont souvent aujourd'hui isolés et ont à faire face à un rôle éducatif infiniment plus complexe. Dans le même temps, d'ailleurs, les grands moyens d'information et les professionnels qui gravitent autour de l'enfant assaillent ses parents de messages toujours impérieux, mais rarement cohérents. Loin de toujours contribuer à un soutien éducatif réel, ils exacerbent l'inquiétude des parents. L'affirmation du travail féminin, la liberté de prévoir la venue des enfants, le désir de leur assurer une promotion sociale et professionnelle, le désir aussi qu'ils n'entravent pas de façon abusive le genre de vie souhaité par leurs parents, me semblent des phénomènes irréversibles. Telles sont, mesdames, messieurs, les inquiétudes et les raisons d'espérer qui me semblent caractériser nos pays industriels. Sans doute pourront-elles paraître n'être pas à l'échelle des problèmes que connaissent encore beaucoup de pays déchirés par la guerre, soumis à la pression d'une croissance démographique souvent supérieure au taux de leur développement économique et comme telles, confrontées aux urgences les plus immédiates, la lutte contre la faim, la mise en place des soins primaires ou les contraintes de l'alphabétisation et de la scolarisation. Mais peut-être les mouvements familiaux de nos pays sont-ils les mieux placés parmi nous pour ressentir la communauté qui lie, au-delà des frontières, l'ensemble des enfants et des familles. L'exigence de bonheur qu'ils formulent pour leurs enfants, la joie de les voir se développer et aussi la douleur de leur souffrance les mettent immédiatement en sympathie avec les familles des autres continents. Et ce n'est pas un hasard si l'UNICEF a été l'une des institutions internationales qui s'est affirmée le plus vite dans l'opinion mondiale. Les résultats obtenus par la coopération internationale ne règlent pas, loin s'en faut, les problèmes posés. Leur solution, au demeurant, ne peut être le fait que de la politique menée par les différents États. Mais ils témoignent de la communauté réelle qui nous réunit à travers le monde pour le bonheur de nos enfants. Je souhaite que ce colloque, et au-delà, l'année internationale de l'enfant contribue à cette prise de conscience et au développement de la solidarité internationale.
Merci beaucoup, Jean-Mike, pour cette archive. Simone Veil, donc. Et à votre avis,
est-ce qu'on peut dire... Mais je vais retourner dans ma boîte.
Ça va ?
Billy, s'il te plaît, on y va. Non, je suis un peu déprimé.
Ah bon, mais...
Allez voir la professeure Moreau si vous voulez creuser le sujet. Elle est à l'UNESCO en ce moment. Au revoir.
Mais, attendez, mais c'est qui ? Bonjour, vous êtes bien la psychiatre et professeure Marie-Rose Moreau ?
Bonjour, oui, bien sûr.
Bonjour, je suis Gabriella, je suis journaliste. Et je sais que vous êtes intervenue aujourd'hui ici même à l'UNESCO dans le cadre d'une journée consacrée à l'enfant. Et moi, j'aimerais vous faire réagir à une archive sonore consacrée à Simone Veil qui s'est exprimée ici même dans le cadre de l'année internationale de l'enfant il y a plus de 40 ans. Est-ce que vous seriez d'accord ?
Avec grand plaisir, pour Simone Veil en particulier. Suivez-moi, allons-y.
Marie-Rose Moreau, que retenez-vous d'emblée ? Qu'est-ce qui vous frappe à l'écoute de ces extraits de Simone Veil, alors ministre de la Santé en France, a prononcé à l'UNESCO en 1979 ?
C'est extrêmement novateur, encore aujourd'hui. L'enfant, il appartient à sa famille, au sens de la relation avec sa famille est extrêmement importante, forte et structurante, mais La société a aussi des devoirs à l'égard de cet enfant. C'est-à-dire qu'elle met en avant le fait que le rôle des femmes et des mères change. Du coup, ça modifie la structure familiale, ça modifie l'aspiration des adultes dans la famille. Et donc, ça entraîne aussi, mais de manière irréversible, des modifications de comment on protège les enfants et comment on s'occupe bien des enfants.
À quel moment de notre histoire, en fait, l'enfant est devenu un sujet de droit et qu'est-ce que cela signifie ?
Je ne dirais pas que c'est acquis. Bien sûr, dans les textes, c'est acquis, mais que concrètement un enfant soit un sujet de droit, chez nous ou ailleurs, je ne crois pas. La contrainte et on pourrait dire la domination, c'est-à-dire l'assujettissement aux attentes des adultes, c'est toujours vrai, y compris dans notre société.
Est-ce que justement pour un enfant, savoir qu'il a des droits et que ses parents, mais aussi la société, ont des devoirs envers lui, qu'est-ce que ça engendre dans sa construction ?
Moi, je trouve que les ados sont de plus en plus conscients de ça. Ça leur donne un sentiment un peu de sécurité quand même, de savoir que ces adultes ont un devoir de les protéger, puis de les aider à devenir adultes. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important quand même.
Aujourd'hui, plus de 30 ans après son adoption, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant a été ratifiée par 193 États sur 195. Les États-Unis et la Somalie sont les seuls pays au monde à l'avoir signée, mais pas ratifiée. Vous le disiez, le cadre théorique est contraignant et donc quasi universellement admis, mais dans la pratique, malheureusement, qu'en est-il de la prise de conscience et de la solidarité internationale que Simone Veil appelait de ses voeux en 1979 ?
Mais ça reste un petit sujet au sens de les enfants, ils sont petits, mais là c'est un petit sujet, c'est-à-dire que dès qu'il y a des crises, c'est un peu comme pour ce que disait Simone de Beauvoir pour les femmes. Il y a des retours en arrière. Vous ouvrez un programme pour les enfants et les adultes, mais quand il n'y a plus de budget ou si on n'a plus assez pour... Eh bien, on va couper celui des enfants. C'est toujours comme ça. Je me souviens, par exemple, d'une discussion au Guatemala où des enfants étaient en danger parce qu'il y avait des traites d'enfants, en fait, hein, dans des endroits très pauvres. Et donc, on avait, avec Médecins Sans Frontières, essayé de trouver des manières pour que ces enfants puissent être mis en sécurité par le pays lui-même. Et en fait, étant donné les crises importantes qu'il y avait à ce moment-là, c'était impossible à imaginer ça. Parce qu'il n'y avait plus d'endroit pour mettre les enfants en sécurité. Donc là, il y avait un danger, mais il n'y avait plus d'endroit. Il n'y avait pas de famille, il n'y avait pas de foyer. Donc, leur droit, c'était quoi ? Ça voulait dire quoi ? C'était des droits. Pourtant, les droits étaient là. Mais concrètement, quand on n'a pas les structures d'accueil ou qu'on ne veut pas créer les structures d'accueil, quand on ne veut pas aider des familles pour qu'elles fassent ce travail, ben, il ne se passera rien. Or, c'est toujours lorsqu'on doit couper. C'est pareil en France, hein, dans les budgets pour les enfants et les adolescents, on doit les défendre de manière extrêmement active. Mais sur le plan international, plus un pays est vulnérable, et donc plus les enfants sont vulnérables, plus leurs droits sont menacés d'emblée.
Retrouvez l'intégralité des archives de cet épisode sur le site fr.unesco.org. Les grandes voix de l'UNESCO, un podcast qui vous plonge dans l'histoire de l'UNESCO, avec la participation de Marie-Rose Moreau.